Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oula, ça sonne pas trop fort, on peut baisser. Non ? D'accord. Alors j'ai l'habitude de parler assez fort, donc si ça sonne trop fort, vous me dites et on baissera le son. Merci. Très bien, donc aujourd'hui, frères et sœurs, je nous invite à parcourir quelques versets de l'évangile selon Jean. On lira le chapitre 1, des versets 32 à 51. Voilà, donc on lira Jean 1, versets 22 à 51. On passera plus de temps à partir du verset 35, mais j'ai tenu quand même à lire à partir du verset 32 pour situer le contexte. Alors, on est là au tout début de l'évangile de Jean. Et les versets qu'on va lire, donc, sont relatifs aux premiers disciples de Jésus-Christ. Donc, on va découvrir comment les premiers disciples de Jésus ont rencontré Jésus et comment est-ce qu'ils l'ont suivi. On va suivre un peu leur parcours. Jean 1, versets 32 à 51, je lis. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Il parle là de Jésus-Christ. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait et leur demanda, « Que désirez-vous ? » ?»« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, « Où habites-tu ? » ?»« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. » Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. »« De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois toi-même, » répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu ? » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » « Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois ? Lui répondit Jésus. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Amen. Voilà donc comment se passe, je dirais, entre guillemets, le recrutement des premiers disciples de Jésus. La première idée qui m'est venue en lisant ce texte, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est une chaîne humaine. Une chaîne humaine, c'est-à-dire chacun qui rencontre Jésus et qui va dire à quelqu'un d'autre, qui lui-même va à la rencontre de Jésus. Ça m'a fait l'effet d'une chaîne de bouche à oreille. J'ai vu quelque chose, ah, ça m'a interpellé, je dis à quelqu'un d'autre, qui lui voit la même chose et dit à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le premier réseau de disciples de Jésus-Christ s'est créé. Cette chaîne humaine, comme j'ai dit, se transmet de bouche à oreille. On voit que Jean-Baptiste, au verset 35, voit Jésus et dit à deux de ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu. » Et ces deux disciples suivent Jésus et vont jusqu'à là où Jésus habite. L'un de ses deux disciples, André, va voir à son tour son frère. Verset 41, il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Et il conduit son frère André, ou plutôt son frère Simon, vers Jésus. Le lendemain, Jésus rencontre Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe lui-même va annoncer à Nathanaël, « Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. » Et pour faire le lien entre Philippe et les deux disciples de la veille, eh bien, la Bible nous dit au verset 44 que Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Il ne nous est pas dit qu'ils ont entendu parler de Jésus par André et Pierre, mais on a l'impression qu'il y a quand même un lien. Ça donne vraiment l'impression d'une connexion, d'un réseau, de bouche à oreille, une chaîne humaine. Cette chaîne humaine, il faut faire remarquer que c'est Dieu lui-même qui l'initie. J'ai dit que cette rencontre, cette découverte de Jésus-Christ se transmet de chacun vers l'autre. Mais on lit dans deux versets que c'est Dieu et Jésus-Christ qui initient cette chaîne humaine. Au verset 32, Jean-Baptiste, comme on l'a lu, atteste que eh bien, c'est Dieu lui-même qui lui a révélé ce Jésus-Christ. Car Dieu lui a dit, tu verras descendre l'Esprit et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. On voit au verset 43 que Jésus interpelle Philippe et lui dit, suis-moi. Et ce n'est qu'ensuite que Philippe va à la rencontre de Nathanaël. Cela me fait penser que la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, eh bien, n'est pas quelque chose qui est à la portée de la nature humaine toute seule. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui vient à nous, et c'est Dieu qui identifie Jésus-Christ afin que les hommes puissent le reconnaître comme ce qu'il est. Chaîne humaine initiée par Dieu. Le deuxième constat que j'ai fait, je l'ai déjà dit, c'est que c'est vrai que c'est une chaîne humaine, mais à chaque fois, on se rend compte que chacune de ces personnes rencontre personnellement Jésus-Christ. C'est pas genre, j'ai entendu un truc vaguement, écoute, ah, j'ai vu quelqu'un, il est sympa, écoute, voilà, c'est bon. Non, c'est, je l'ai vu, je l'ai entendu, vas-y toi-même. Et je vois cela illustré par l'expression de Philippe à Nathanaël quand il dit au verset 46, « Viens et vois toi-même. » Personne ne peut le faire à ta place. « Viens et vois toi-même. » Philippe semble reprendre l'expression de Jésus lui-même au verset 39 quand les deux disciples lui disent « Mais où habites-tu ?» Jésus répond « Venez et vous le verrez. Viens et vois toi-même. » Voici un appel qui s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui. viens et vois toi-même. Quand on lit l'histoire de ses premiers disciples, on se rend compte qu'il n'y a pas de schéma. L'apôtre Jean, qui écrit cet évangile, ne veut pas nous montrer un schéma typique pour dire « Voici comment on devient disciple de Jésus, voici comment on rencontre Jésus. » Les deux premiers disciples qui l'ont vu, eh bien ceux-là vont chez Jésus, passent du temps avec lui, je suppose qu'ils discutent avec lui, et le verset 39 lui dit « Ils passèrent le reste de la journée avec lui. » Pour ce qui est de Simon, on ne sait pas trop ce qu'il répond, mais Jésus lui dit « Eh bien, tu ne t'appelleras plus Simon, désormais tu seras Céphas, qui veut dire Pierre. » Pour Philippe, c'est encore autre chose. Jésus l'interpelle et lui dit « Suis-moi !» comme un ordre. La Bible ne dit pas ce qu'il a répondu, mais on peut laisser, je pense qu'on peut raisonnablement penser que Philippe l'a suivi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il va ensuite témoigner et dire à Nathanaël, « Viens et vois toi-même. Voici celui dont parle le livre des prophètes et Moïse. » On voit aussi que dans la rencontre de Nathanaël et de Jésus, on a une autre attitude. D'abord, pleine de perplexité, de scepticisme, de doute. Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Mais assez vite, on voit que dans cette discussion qui s'instaure entre Jésus et Nathanaël, on se rend compte que Nathanaël finit par être convaincu par une parole personnelle que Jésus lui adresse en disant « Quand tu étais sur le figuier, avant même que Philippe ne t'interpelle, je t'ai vu. » Voilà, frères et sœurs, que l'évangéliste Jean nous raconte comme ça différentes expériences qui n'ont rien à voir, qui sont différentes les unes des autres. Comme je l'ai dit, cela veut dire qu'il n'y a pas un seul moyen de rencontrer Jésus-Christ. Ce n'est pas donc un schéma unique que la Bible veut nous montrer, c'est plutôt une invitation. Une invitation pour que chacun d'entre nous ici fasse sa propre expérience. La rencontre avec Jésus-Christ est une expérience personnel, peu importe le schéma. Peut-être que si tu es présent dans cette église ce matin, tu es venu parce que quelqu'un t'a dit « Viens et vois ». Peut-être que si tu es présent ce matin, tu as reçu dans ton cœur, c'est peut-être Jésus qui t'a parlé, qui t'a dit « Viens et vois ». Et donc tu as cherché sur internet l'adresse d'une église. C'était mon cas. Peut-être que si tu es là ce matin, tu es plein de doutes. Que peut-il venir de bon de cette obscure église à Blanc-Ménil? Il n'y a pas de schéma. Ce qui est important, c'est de faire une rencontre personnelle avec le Christ. Viens et vois toi-même. On peut se dire quand même que... Alors, Jean ne détaille pas le contenu des discussions que ses disciples ont eues avec Jean. Sauf quand même, on a plus de détails dans l'échange de Nathanaël et de Jésus. Mais clairement, on ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit dans les détails. Mais on voit quand même que cette rencontre avec Jésus les a bouleversés, certainement. Et à quoi on peut le voir? On le voit très clairement par les titres qu'ils attribuent à Jésus. Maître, Rabbi, verset 41, le Messie, le Christ, verset 44, le prophète. Et alors le verset 49, ces deux titres dans la bouche du plus sceptique, du plus perplexe, Nathanaël. Hein? Maître, s'écria Nathanaël, verset 49, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est par les titres qu'ils attribuent à Jésus-Christ qu'on peut conclure que leur rencontre avec Jésus les a quelque part bouleversés. Ça les a bouleversés. Ils n'ont pas pu garder pour eux cette rencontre personnelle. Ça brûlait en eux. On peut se dire que si tu es disciple de Jésus-Christ, ou si tu veux le devenir, Jésus met en toi un feu. Une flamme qui brûle et ta bouche ne peut se fermer. Le disciple est appelé à faire des disciples. Non pas que Jésus nous appelle à faire du chiffre, c'est pas du recrutement, mais quelque part Jésus nous invite à témoigner, être disciple et faire des disciples en témoignant de qui est Jésus-Christ. Voici le profil des premiers disciples de Jésus. Voici le profil de tous les disciples de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de ces expériences d'André, de Philippe, de Nathanaël, de Simon, des généralités. Cependant, on peut en tirer quelques leçons pour nous, en tirer quelques enseignements plus ou moins pratiques. Le premier que j'ai vu, c'est dans le verset 39. On voit que André et cet autre disciple, donc ces deux disciples, ces deux premiers disciples qui rencontrent Jésus, veulent savoir où il habite. Il passe du temps avec lui. Il nous a dit tout le reste de la journée. J'en déduis que c'est aussi une invitation pour nous aujourd'hui qui voulons connaître Christ à lui consacrer du temps. Du temps dans la relation personnelle avec Jésus, c'est par l'étude de sa parole, la Bible, et c'est par la prière. Consacre du temps à Jésus si tu veux être son disciple. Deuxième point que je vois, c'est si tu veux rencontrer Jésus et te laisser surprendre, dépasse tes préjugés. On le voit dans toujours ces propos de Nathanaël. Oui, mais tu me dis qu'il est le prophète, mais de Nazareth, c'est impossible. Nazareth, cette ville obscure. Les préjugés dans notre société française actuellement en 2013, je peux dire qu'il n'est pas bon d'avoir des préjugés. Je pense que si vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu as des préjugés? Waouh, la personne va dire, absolument pas, tu rigoles. Mais non, c'est pas bien. Mais nous savons que nous avons tous des préjugés. Ah oui, nous en avons tous, frères et sœurs. Les préjugés, il y en a. Je fais remarquer que Jésus ne semble pas lui reprocher d'avoir des préjugés négatifs sur Nazareth. Jésus lui-même, quand il ira dans sa ville natale, sera surpris de combien les habitants de cette ville ont le cœur dur. Nathanaël a dû faire des expériences, des rencontres, a dû vivre des choses avec des personnes de Nazareth qui ont produit en lui cette conviction que de Nazareth, il ne peut jamais rien venir de bon. Peut-être nous faisons des expériences qui nous conforte dans nos préjugés. J'ai essayé de réfléchir, mais quels sont les préjugés qu'on peut avoir? Oh là là, la liste est si longue. Je pense que vous les connaissez. On peut avoir des préjugés sur la race. C'est les plus classiques, c'est les plus faciles. On peut avoir des préjugés sur le sexe, les femmes, les hommes. On peut avoir des préjugés sur l'âge. Ah, les jeunes. Ah, les vieux. On peut avoir des préjugés sur la ville. Que peut-il venir de bon de Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis? Tout le monde sait que c'est la zone. Que peut-il venir de bon? On peut avoir des préjugés même au sein de la même ville. On peut avoir des préjugés sur les quartiers. Que peut-il venir de bon des Tilleuls ou de Blanc-Ménil-Nord? Nous, à Blanc-Ménil-Centre, au moins, on sait que nous sommes des gens bien. Frères et sœurs, les préjugés les plus ténaces sont ceux qu'on a sur les gens qui nous sont le plus proches. C'est ça, les préjugés les plus ténaces. Il ne faut pas se dire que les préjugés les plus voyants, c'est les préjugés sur les gens qu'on ne connaît pas, à ces obscurs gens d'Afrique, d'Inde et tout. Non, les préjugés les plus solides sont ceux qu'on a contre nos propres voisins. Et Nathanaël est originaire de la ville de Cana, qui est voisine de Nazareth. Donc il les connaît bien. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Pour être disciple de Jésus-Christ, dépasse tes préjugés et laisse-toi surprendre. Jésus dit à Simon, tu es Simon, fils de Jonas, eh bien on t'appellera Cephas. Ce qui veut dire Pierre. Et on voit dans la suite de l'évangile que Pierre était bien vacillant. Il était plein de zèle, mais il a souvent été branlé. Et là, on voit Jésus qui, quelque part, en changeant son nom, lui dit quelque part que ta vie va changer. D'un homme vacillant, tu deviendras une pierre solidement ancrée dans la foi en Jésus-Christ. Peut-être, sans faire une généralité quand même, on peut se dire que Jésus peut opérer en nous la même transformation. Nos cœurs sont si tortueux, nos voies sont si sinueuses. Jésus-Christ peut faire de nous des cœurs droits, bien ancrés en lui-même. Jésus-Christ fait un compliment à Nathanaël. Il lui dit, voici un véritable Israélite, plein de droiture. Si Jésus fait ce compliment, on peut se dire quand même que c'est une qualité rare. Des hommes droits, dont la parole et les actes sont cohérents avec ce qu'ils pensent. Est-ce que cette qualité, aujourd'hui, nous la voyons autour de nous? Et si nous la voyons, est-ce que nous l'admirons? Est-ce que nous aspirons à cette droiture? Jésus semble apprécier la droiture de Nathanaël. Peut-il la trouver en nous, frères et sœurs? Et enfin, Jésus dit encore à Nathanaël, avant que Philippe ne t'interpelle, je t'ai vu. Autrement dit, avant même qu'on se voie et que tu entends parler de moi, je te connaissais. C'est pour ça que je t'ai vu sous le figuier et que j'essaie d'avance que tu es un homme droit. Est-ce que dans ma vie, je peux dire Jésus-Christ me connaît? Même si en ce matin, tu ne le connais pas encore, est-ce que tu peux penser que Jésus, lui, te connaît? Il me semble que oui. Jésus-Christ te voit et te connaît. Voici quelques enseignements pratiques que j'ai essayé de tirer de ces rencontres de Jésus et de ses premiers disciples. Mais le point important que Jésus laisse à ses disciples, c'est sa réponse à Nathanaël au verset 50. Je l'ai dit, ce passage est surprenant par la densité des titres, tous aussi glorieux qu'on donne à Jésus. Messie, oint, roi, fils de Dieu. Très bien, tout ça est bien. Mais Jésus dit au verset 50 à Nathanaël, « Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » On voit que ses disciples commencent à croire en Jésus. Mais Jésus veut leur donner un sujet encore plus grand de foi. Ce n'est pas dans ces miracles d'emblée que Jésus veut qu'on croie. D'ailleurs, le premier miracle dans cet évangile est raconté dans le chapitre d'après. Le premier miracle, c'est le chapitre 2. Ce n'est pas tant par les paroles personnelles qu'il adresse à ses disciples que Jésus veut impressionner. Ce qu'il veut qu'on croie, c'est qu'il est le Fils de l'homme. Celui qui ouvre le ciel, celui qui est comme une échelle, un escalier entre le ciel et la terre, sur lequel montent et descendent des anges. Voilà une parole assez obscure. Frères et sœurs, dans cette parole, Jésus fait référence à une histoire de l'Ancien Testament qui est assez connue, la vision de Jacob. On n'aura pas le temps ce matin de la commenter, c'est en Genèse chapitre 28, des versets 10 à 17. Je vous invite donc à lire cette histoire chez vous. Mais on est à une époque où Jacob fuit sa maison parce qu'il a frauduleusement volé la bénédiction de son père. Il se retrouve donc poursuivi par son frère jumeau qui veut le tuer. Au milieu de ce chemin de fuite, Il s'endort. Et là, il a une vision. Il voit comme une échelle, comme un escalier, dressé entre ciel et terre, des anges qui montent et qui descendent. Et il entend Dieu lui dire, « Je garderai mon alliance avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je te bénirai, toi et tes descendants. » Genèse 28, versets 10 à 17. Ce que Jacob a vu en vision, Jésus dit à ses disciples qu'ils le verront. Pas en vision cette fois-ci. Ils le verront de leurs yeux. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. C'est un signe, c'est une image que Jésus utilise. Et donc, comme dans toutes ces allégories, ces signes, ces images, ce qui va nous importer, c'est d'en comprendre la signification. Je note trois points dans cette affirmation et ce sera le mot de la fin. Le premier point, c'est que Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme et qu'il est comme une échelle entre ciel et terre. Fils de l'homme, Jésus insiste sur le fait qu'il est lui-même homme. C'est bien un homme qui se présente devant les disciples. Mais en même temps, s'il a la prétention de dire qu'il est un escalier, une échelle entre ciel et terre, ben c'est que, en fait, cet homme, il a un pied sur terre et un pied dans le ciel. Jésus trace là les premières pistes pour conduire ses disciples à comprendre qu'il est homme et vrai Dieu. Nathanaël a dit « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jean-Baptiste a donc eu aussi cette expression. Celui-ci est le Fils de Dieu. Mais Jésus va là, par cette image, nous faire comprendre qu'il est Dieu, le Fils. Le Fils de Dieu est bien Dieu, le Fils. Fils de l'homme, échelle entre le ciel et la terre. Le deuxième point, c'est Jésus nous dit, vous verrez le ciel ouvert. Est-ce que ça veut dire que le ciel était fermé? Qui est dans le ciel? C'est Dieu. S'il est fermé, c'est que Dieu est séparé des hommes. Par cette image, à n'en point douter, Jésus veut nous faire comprendre que c'est lui qui ouvre l'accès au ciel et donc l'accès à Dieu. Cela nous est dit clairement en Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et cette idée sera reprise en 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5, où l'apôtre Paul nous dit « En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. » C'est par sa mort, par le fait qu'il a porté nos péchés à la croix, que Jésus-Christ brise toutes les barrières qui séparent Dieu des hommes. Et désormais, on peut chanter et s'émerveiller, comme le fait l'apôtre Paul en Romains 8, plus rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Plus rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, vous verrez le ciel ouvert avec ce médiateur, Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes. Jésus nous dit, vous verrez les anges monter et descendre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Le ciel ouvert, c'est la certitude que Dieu nous entend. Et cela, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Le ciel ouvert, c'est la certitude que Dieu nous voit grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Mais si Dieu nous entend et s'il nous voit, Dieu nous promet d'agir aussi très concrètement dans nos vies. Ces anges qui montent et qui descendent sur cet escalier, sur cette échelle, ben, symbolise l'action concrète et réelle de Dieu dans la vie de chaque chrétien. Quand on invoque le nom de Jésus, on peut avoir la certitude que Dieu nous entend, nous voit et qu'il agit. Peut-être as-tu eu cette expérience que Dieu, à certains moments de ta vie, dans certaines difficultés, t'a apporté des personnes qui t'ont apporté un réconfort, des personnes que tu ne connais pas, qui sont venues de nulle part. C'est peut-être des anges. Dieu agit pour ses enfants. Et Jésus-Christ est le nom par lequel nous pouvons avoir cette certitude. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre pour vous aider, vous, mes disciples, à me suivre. En résumé, on a dit, viens et vois toi-même. Voici l'invitation que ces versets de l'Évangile nous adressent et que nous sommes invités nous-mêmes à adresser à ceux qui nous entourent. On a vu aussi que Jésus-Christ, par sa mort, nous donne cet accès à Dieu. Et par sa résurrection, lui qui est assis désormais à la droite de Dieu, il promet l'action de Dieu concrète dans notre quotidien. Alors, frères et sœurs, si tu as fait en ce matin ou avant, ou j'espère que tu le feras plus tard, cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, alors tu pourras t'approprier tous ces titres que les premiers disciples ont adressés à Jésus. Jésus ne sera pas simplement fils de Dieu, il sera ton Dieu, Dieu le Fils. Jésus ne sera pas simplement le roi d'Israël, mais il sera pour toi ton roi, celui qui règne dans ta vie, celui qui règne sur la terre et dans les cieux. Jésus ne sera pas pour toi simplement le Messie, il sera ton sauveur. Jésus ne sera pas simplement pour toi un simple prophète prévu, annoncé dans l'Ancien Testament, il sera l'Amen, comme nous dit le livre de l'Apocalypse, le oui, la réalisation concrète de toutes les promesses de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Viens et vois toi-même. Amen.